Amen. Alléluia. Avec Dieu, c'est juste, au lieu d'accepter ce qui se passe autour de nous, de reconnaître que Dieu peut faire et veut faire et va faire la différence. Amen. Et c'est pour ça qu'on est ici le jeudi matin, pour en savoir plus de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. En réalité, ce que vous faites ce matin, ça serait pareil comme quelqu'un qui va s'asseoir devant le notaire, puis il veut savoir c'est quoi les dernières volontés de celui qui est décédé. Nous autres, on regarde les volontés de celui qui est décédé à la croix il y a 2000 ans passés. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Il nous a laissé un nouveau testament. Amen. L'ancien, il trouvait qu'il était passé encore pour nous. Alors, il a fait un nouveau testament, une nouvelle alliance qui est basée sur encore des meilleures promesses. Puis quand vous êtes assis, vraiment, à chaque fois que vous venez vous asseoir pour entendre la parole de Dieu, vous venez vous asseoir pour connaître encore plus qu'est-ce qui est sur votre testament, qui a été laissé par Jésus. Savez-vous, la parole de Dieu parle de cela. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je m'en aille un petit peu là-dedans ce matin. Je vais regarder si j'ai mon écriture. Alléluia. Alors, voyez-vous, dans Galates 3, verset 15, ça dit, « Frère, je parle à la manière des hommes, un testament. » Tu l'as-tu, Galates 3, 15? Ça s'en vient? Bon. Il dit, « Frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par des hommes, n'est annulé par personne. » Voyez-vous ce que je vous ai dit tantôt, là? La Bible parle de la même chose. Amen. Il dit, « Un testament fait par des hommes, là, personne ne peut annuler ça. » Combien de vous savez que personne ne peut annuler ça? Amen. Il dit, « N'est annulé par personne et personne n'y ajoute non plus. » On ne peut pas arriver et dire, « Ben oui, mais la maison qu'il y avait là-bas, là, celle-là aussi, je l'ai vue. » Non. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Puis la parole de Dieu dit au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Héritier de quoi? Du testament qu'il nous a fait. Amen. Alors, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à la descendance, c'est-à-dire à Christ. » Ça veut dire ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, ceux qui connaissent Christ, il y a un testament qui a été fait en bonne et due forme. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. En tout cas, je crois que c'est important que ce soit dit ce matin. Amen. Merci Seigneur. Le monde dit, tu lis la Bible, eh oui, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon testament. Amen. Qu'est-ce que Jésus m'a laissé quand il est mort à la croix. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, on a vu la semaine passée, on a commencé à parler que la guérison est incluse dans la rédemption. La rédemption, c'est le rachat de nos péchés qui a été fait à la croix. Jésus, on était perdus. Jésus nous a rachetés. Amen. C'est ça qu'on appelle la rédemption, ce qu'il a fait à la croix. Et puis, on veut voir qu'au travers la rédemption, ce que Jésus a fait, que la guérison était incluse là-dedans. Amen. Et on a vu la semaine passée, parce qu'on va voir dans l'Ancien Testament les exemples de la rédemption. Parce que dans l'Ancien Testament, il faisait les choses en vue d'eux. Alors, il faisait des cérémonies, il faisait des choses qui parlaient d'eux. C'était en vue de un jour le vrai va venir. Nous, dans le Nouveau Testament, les enfants du Nouveau Testament, on regarde aux choses qui ont été faites. Amen. Eux autres regardaient que ça allait venir. Nous autres, on regarde que ça a été fait. Il est mort, le testament est là. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, on a vu que pour avoir la liberté de l'esclavage, pour sortir de l'emprise de l'Égypte qui est du monde, et pour avoir la liberté puis sortir, être racheté, leur sauveur, d'un sens. L'exemple, c'était Moïse. Il est venu, il les a fait sortir. Puis la parole de Dieu dit qu'ils ont sorti avec toutes les richesses, donc la prospérité va avec Dieu. Et ils ont sorti aussi avec aucun faible parmi eux. Et la cérémonie qui avait été faite, c'était l'agneau qui avait été cuit, bouilli, amen, et le sang qui avait été appliqué, c'était leur cérémonie. Ça démontrait le sang versé de Jésus. L'agneau de Dieu, on l'a entendu assez longtemps, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Ils ont pris part à l'agneau, ils l'ont mangé, et à cause de cela, il n'y avait aucun faible parmi eux. Amen. Aujourd'hui, on va aller à Jean 5. Je veux que vous voyez ce que Jésus lui-même a dit aux Juifs. Amen. Dans Jean 5, parce qu'il est en train de parler aux Juifs, puis il est en train de leur dire tout ce qui est écrit, ça parle de moi, là. C'est pas moi qui parle de moi, là. Et puis, au verset 38, la parole de Dieu dit, « Et sa parole ne demeure... » Il parle ici, je veux juste dire avant de commencer, il parle ici à des Juifs, à des gens qui connaissent, qu'à chaque sabbat, ils ont entendu la parole de Dieu, qui connaissent les cinq premiers livres de la Bible par cœur. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, puis Deutéronome. Ils connaissent les cinq premiers livres, les histoires, les faits, le commencement des temps, tout ce que Dieu est, sa puissance, comment ils connaissent ça par cœur. Ils parlent à eux de ça. Et il dit... Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Je veux juste prendre une pause ici et dire ceci. Combien de gens, des fois, avant de croire en Jésus, ont lu la Bible puis disaient, je comprends rien. Je comprends rien. Mais après que le Seigneur Jésus est venu dans leur vie, c'est comme tout est clair comme de l'eau de roche. Ils lisent la Bible, puis c'est comme, waouh, ça fait du sens. Mais c'est ce qu'il leur dit ici. En voulant dire, vous pouvez peut-être connaître les cinq premiers livres de la Bible, mais parce que vous ne croyez pas, vous ne comprenez rien. Voyez-vous, il dit, et sa parole, elle ne peut pas demeurer en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Il dit, vous sondez les Écritures. Voyez-vous, si moi je vais en Afrique puis je vais aller sonder le terrain, je vais creuser, je vais prendre des minéraux, je vais prendre de la terre, je vais examiner, je vais sonder, là, c'est vraiment sonder. Amen. Il dit, vous sondez les Écritures en voulant dire, vous essayez de les décortiquer, vous allez fouiller, vous connaissez les cinq premiers livres de la Bible. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En réalité, ce que Jésus disait, il disait, vous connaissez les cinq livres de la Bible par cœur. Vous sondez toutes ces Écritures-là. Vous êtes là sabbat, après essayer de décortiquer puis tout ça. Puis il dit, vous pensez vraiment, oui, c'est en elle qu'on a la vie éternelle. Puis il dit, vous réalisez pas que ces Écritures-là parlent de moi. Ils parlent de moi. Alors Jésus dit lui-même que dans l'Ancien Testament, les choses qu'il faisait, ça parlait de lui. C'est pour ça que quand on lit un des cinq livres du début de la Bible et qu'on voit qu'on a vu la semaine passée que dans Exode, qu'il appliquait le sang puis il mangeait l'agneau, Jésus dit, quand vous lisez ça, là, ça parle de moi. Puis vous comprenez rien. Il dit, ça parle de moi. Puis il dit, vous espérez avoir la vie éternelle, ça parle de moi, puis vous le voyez même pas. C'est ce qu'il dit. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, ça parle de moi, mais vous, quand, moi je suis là, puis vous venez pas à moi. Mais vous cherchez dans les Écritures pour trouver la vie éternelle, puis ça parle de moi. Jésus est la vie éternelle. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui a versé son sang. Je veux juste que vous voyez avant qu'on aille dans les exemples de l'Ancien Testament où ce qui faisait des cérémonies de la rédemption en prévision de Jésus qui viendrait. Mais quand Jésus est venu, il leur parlait à eux, puis il dit, maintenant le vrai est ici. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis celui qui vous amène la vérité. Je suis celui qui va mourir à la croix. Puis vous autres, vous regardez dans l'Ancien Testament pour me trouver. Je suis là, puis vous ne me voyez pas encore. Pourquoi? Le verset 38, il dit, parce que vous ne croyez pas en celui qui est venu. Voyez-vous, pour comprendre les Écritures, pour comprendre que c'est vraiment Jésus, il faut premièrement croire en lui. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on sait très bien que, on va aller voir un autre exemple de l'Ancien Testament, parce que Jésus, lui, il dit lui-même qu'il était dans l'exemple. Et ces Écritures-là, il parle de moi. Fait qu'on va aller voir dans Lévitique 14, encore un des cinq premiers livres de la parole de Dieu que les Juifs connaissent par cœur. Amen. Dans Lévitique 14, on va commencer à lire au verset 1. Alors, ces Écritures-là parlent de Jésus. Ça dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux. » Un lépreux, c'est un malade. Amen. Il dit, pour le jour de sa purification ou pour le jour de sa guérison, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux dans un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Vous êtes avec moi? Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Alors, je veux qu'on voit ici qu'il y avait premièrement, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait la lèpre ou n'importe quelle autre maladie, c'est parce qu'en quelque part, il avait désobéi à la loi. Parce que si tu désobéissais, tu ouvrais les portes à la malédiction. Mais lorsqu'il probablement retournait à l'obéissance, puis il demandait le pardon de ses péchés en offrant un animal ou quelque chose de même, la guérison venait. En quelque part, si dans l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait être guéri de la lèpre, encore bien plus dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que ça l'arrivait qu'il était guéri de la lèpre. Parce que quand tu avais la lèpre, tu restais en dehors de des foules, tu étais déclaré comme impur. La lèpre était sur toi, le monde disait, mon Dieu, il a fait quelque chose de pas correct, certain. La lèpre est sur lui, tu étais déclaré comme impur. Alors, c'est pour ça que lorsque tu t'apercevais que tu étais guéri, en quelque part, et de la personne, comme j'ai dit, elle devait avoir fait une offrande, demander pardon, puis rentrer en ligne avec la bénédiction et non pas la malédiction, parce que dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, malédiction, bénédiction. Là, il voyait qu'il était guéri de sa lèpre, il allait vers le camp. Mais il ne rentrait pas dans le camp, c'était le sacrificateur qui sortait puis venait l'examiner, le grand prêtre. C'est lui qui sortait puis il l'examinait partout pour voir si la guérison était vraiment là. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'il faisait une cérémonie qui démontrait qu'il est guéri. Et voici la cérémonie qu'il faisait au verset 4. Ça dit, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui est purifié, qui est guéri, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Les deux oiseaux des deux oiseaux vivants et purs, c'était sûrement des colombes, du bois de cèdre, je vais l'expliquer puis je vais revenir. Vous savez, OK. Du bois de cèdre, du cramoisi. Du cramoisi, c'est la couleur cramoisi. C'est la couleur rouge sang quand ça commence à sécher. Amen. Et de l'hysope. L'hysope, c'est une plante odorifiante. Et puis, elle a comme des grandes branches de rameaux. Puis, eux autres, ils servaient de les branches pour faire l'aspersion. OK? Alors, ça dit, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux dans un vase de terre sur de l'eau vive. Alors, faut comprendre tout le cérémonial de ces choses-là. Alors, vraiment, quand il prenait deux oiseaux qui étaient purs, deux colombes, et puis il prenait un vase de terre, après ça, il faisait couler de l'eau vive, et l'hysope était prêt pour après prendre l'aspersion, faire l'aspersion. Le vase de terre, ça représente Jésus qui est venu sur la terre. OK? Le vase en terre cuite, ça représente Jésus qui est venu sur la terre. L'eau vit, et Jésus l'a dit lui-même. On va aller dans Jean 1, 14. Je vais juste expliquer les éléments, après ça on regardera à la cérémonie elle-même. Jean 1, 14, ça dit, « Et la parole a été faite chair. » La parole de Dieu a pris un corps humain, a été faite chair en Jésus. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Alors, on sait très bien que Jésus il est venu du Père, le Fils unique, et il a habité parmi nous. C'est la parole qui a habité parmi nous. Alors, vraiment, lorsqu'il prenait le vase de terre, ça représente Jésus qui est venu sur la terre. L'eau vive, c'est de l'eau qui coule, de l'eau vive, ça représente la parole de Dieu. Parce que dans Éphésiens 5, verset 26, ça dit, « Afin... » On va commencer au verset 1, ça dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Alors, dans l'Ancien Testament, ils font la cérémonie. Dans le Nouveau Testament, on croit ce qui est écrit. On le croit, c'est spirituel. Mais dans l'Ancien Testament, ils prenaient un vase de terre. Pour eux, ça signifiait un jour, quelqu'un va venir sur la terre. Ils prenaient de l'eau vive. Alors, ça représentait qu'un jour, la parole de Dieu va venir nous laver. Amen. Et après ça, ils prenaient de l'hysope. Comme j'ai dit, c'était la branche qu'il prenait pour asperser le sang. Alors, on a vu tantôt qu'il dit qu'il prenait deux oiseaux. On va continuer à lire. Et ça dit au verset 5, « Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur le vase de terre, sur l'eau vive. » Alors, il prenait une des colombes, puis il l'égorgeait. Puis là, il vidait le sang dans le vase de terre avec l'eau vive. Ça veut dire que l'eau coulait avec le sang. La parole et le sang versé de Jésus dans un vase de terre. Amen. Il dit, et après ça, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur une croix en bois. Le bois de cèdre, le cramoisi, la couleur cramoisi, c'est pour montrer le sang qui a été versé puis qui a séché de même sur le bois. Et l'hysope, après ça, il va saucer puis il va asperser le lépreux qui a été guéri. Et il dit, et l'oiseau vivant dans le sang, OK, de l'hysope. Et il trempera aussi l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Alors, vraiment, ce que le... On l'a tout lu, là. Ce que le sacrificateur faisait, c'est qu'il sortait, il allait voir le lépreux, là, il l'examinait, puis il disait, OK, la guérison est là. Alors, vu que tu es guéri, il y a une raison pour ça. Et moi, comme grand prêtre, comme serviteur de Dieu, je vais faire une cérémonie qui va démontrer pourquoi tu as été guéri. Alors, par la foi, parce que Jésus, il n'est pas encore venu, c'est l'Ancien Testament. C'est un testament qui était basé sur d'anciennes promesses. Alors, il prenait un vase de terre, tout le monde le regarde faire. Il prend deux oiseaux purs. Il dit, amenez-moi deux oiseaux purs. Et puis là, il prend le cramoisi, le bois. Il égorge un des oiseaux. Le sang coule. Et puis, il prend l'eau vive. Et puis, ça coule. Fait que là, dans le plat de terre, il y a l'eau vive qui a coulé. Il y a le sang. Il y a le bois, il y a le cramoisi. Alors, c'est tout de couleur rouge foncé, comme du sang versé, le bois. C'est tout significatif. Là, il prenait l'autre oiseau, ça dit, et il le trempait là-dedans. Il le trempait là-dedans, l'oiseau qui est vivant. Et quand il était trempé, après ça, il le lâchait lousse en liberté. Et pour eux, ça voulait dire, la guérison qui est venue sur toi, c'est à cause d'une raison. C'est parce que Dieu a préparé un plan où un jour, son Fils va venir sur la terre. Il va verser son sang. Il va répandre la parole, qui est l'eau de la parole. Il va mourir sur le bois. Et son sang versé va faire que si nous, on va se tremper dans qu'est-ce qu'il a fait, on va pouvoir être libre, nous aussi. Alors, voyez-vous que dans l'Ancien Testament, il faisait des cérémonies significatives au jour de la rédemption quand ça viendrait dans notre vie. Amen. Il faisait, puis ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Jésus est venu, le Fils de Dieu. La parole a été faite chair. Quand c'est venu le temps de mourir sur la croix, la journée avant, il est allé devant Dieu, puis il dit, faut-il vraiment que ce soit moi? Pas rien qu'un oiseau égorgé comme avant. Pas juste de l'eau qui est significative. Faut-il vraiment que ce soit moi? Et son père, il a dit, après ça, il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, il le savait, lui, Jésus, vraiment, le sang versé, l'eau, le vase de terre, c'est Jésus. L'oiseau, l'autre colombe vivante qu'il trempait, c'est nous. Voyez-vous pourquoi on est une belle colombe, nous autres aussi? C'est parce que Jésus nous a lavés de nos péchés. Fait que Jésus est une colombe, il est parfait, puis il a versé son sang, puis l'eau de la parole dans le vase de terre. Mais nous autres aussi, quand on vient à Jésus, qu'on le reconnaît comme le sauveur du monde et le sauveur de mon monde à moi aussi, ma vie. Et qu'on devient un oiseau pur, nous autres aussi. Et plus on se trempe dans qu'est-ce qu'il a fait, plus on est déclaré libre. Alors voyez-vous que Jésus, quand il dit, vous sondez les Écritures. Il parle à du monde qui connaissent Lévitique, puis qui connaît Nombre, Deutéronome, puis Genèse, puis Exode. Et il dit, vous sondez à chaque dimanche, puis vous espérez trouver en elle la vie éternelle. Puis il dit, ces Écritures-là, ils parlent de moi. Puis il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle? Il dit, c'est parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Amen. Vous ne croyez pas. Mais nous, on croit. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller se tremper continuellement dans la parole, puis se rappeler. Non, même si j'ai fait une erreur, Dieu me pardonne parce que j'ai juste allé me tremper dans le sang qui a été versé. Autrement dit, on se rappelle. Amen. Jésus, il a dit, faites en mémoire de moi. Amen. Nous, on a deux cérémonies dans le Nouveau Testament. Un, c'est la communion. Voyez-vous, eux autres, ils n'avaient beaucoup de cérémonies. Ils mettaient des fois le sang alentour du poteau, ils mangeaient l'agneau, ils s'en retournaient libre. Une autre fois, quand la guérison était là, parce que la guérison fait partie de la rédemption, voyez-vous, parce qu'ils étaient guéris, ils disaient, ça fait partie de qu'est-ce que Jésus va faire à la croix. Quand ils voyaient un lépreux qui était guéri, « Ah, OK, il est guéri, bien, ça fait partie de ça. » Alors, on va faire la cérémonie de l'un jour quand Jésus va venir sur la terre et puis qu'il va verser son sang, puis il va répandre la parole et puis qu'il va mourir à la croix pour nous. Alors, ça fait partie de ça. Fait qu'il disait clairement que la guérison fait partie de la rédemption. Amen. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, vraiment... Nous, aujourd'hui, du Nouveau Testament, quand on sonde les Écritures, parce qu'on espère trouver en elles la vie éternelle, on croit parce qu'elles parlent vraiment de Jésus. Amen. Puis en parlant de Jésus, on parle du salut, on parle de la guérison, on parle de la provision, on parle de la paix, on parle de la délivrance parce que c'est tout inclus dans la rédemption. Voyez-vous dans Luc 17, je vais juste lire une couple d'autres écritures. Luc 17. Alors, quand le grand prêtre avait fait ça, ça voulait dire, t'es vraiment guéri, on peut faire la cérémonie. Qui vient, la cérémonie, c'est elle qui a amené la guérison. Amen. Voyez-vous dans Luc 17, verset 11. Je crois que c'est le verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher. Ils élevèrent la voix et dirent, « Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Autrement dit, ils reconnaissaient que Jésus, le maître, l'enseignant, était celui qui pouvait les guérir. Fait qu'ils ont resté à distance, puis ils ont dit, « Aie pitié de nous! On ne peut pas s'approcher pour que tu nous touches. On n'est pas comme toutes les foules qui te suivent des fois pendant 3 jours de temps, ou des fois quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, puis tu vas guérir. On est à distance, mais hey, oublie-nous pas! » Alors, voici ce que Jésus dit. Dès qu'il les eut vus, aussitôt qu'il les eut vus, amen, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Je veux vous situer comment les gens agissaient par la foi. Parce que voyez-vous, dans l'Ancien Testament, quand le lépreux voyait qu'il était guéri, il savait tout de suite qu'il fallait qu'il se montre au sacrificateur pour qu'il fasse la cérémonie. Alors, quand ils ont crié à Jésus, puis ils ont dit, hey, « Pitié de nous! » Il dit, « Vous voulez la guérison? Allez vous montrer au sacrificateur. » Eux autres le savaient, là. Pendant le temps qu'on part de là pour se rendre jusqu'à temps qu'on arrive au sacrificateur, la guérison est bien mieux de prendre place, parce que quand j'arrive devant lui, il va m'examiner, il faut que je sois guéri. Ça veut dire qu'il prenait tout de suite la parole que Jésus faisait et il agissait sur qu'est-ce que Jésus leur avait dit de faire. Ils le savent que quand ils vont arriver devant le sacrificateur, ils ont besoin d'être guéris, parce qu'il va les examiner, comprenez-vous? Mais ça veut dire que ça prend la foi pour arriver puis dire, j'ai la lèpre, il dit d'aller me montrer, et comme ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ça veut dire, comme ils le faisaient par la foi, la guérison s'est installée. Et c'est quelque chose. On va juste continuer à lire. Ça dit, et l'un d'eux se voyant guéri. Autrement dit, pouvez-vous imaginer, ils sont en train de marcher, puis l'un qui dit, je commence à voir des doigts. Hey, on est guéri, mais qu'on arrive là-bas, il va vraiment nous examiner, puis on est guéri, amen. Puis il y en a un qui s'est aperçu que quand il voyait, il a vu qu'il commençait à être guéri, se voyant guéri, il est revenu sur ses pas, il a glorifié Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Autrement dit, il y en a un de la gang qu'au lieu, il avait reconnu en quelque part par le passé que dans l'Écriture, quand il prenait un vase de terre, de l'eau, le sang versé, et qui signifiait que la guérison était procurée par la rédemption, bien, en s'en allant, quand il s'est vu guéri, c'est comme s'il le savait Je n'ai pas besoin d'avoir juste un plat avec de l'eau. Il est là! Il est là! Les neuf autres, autres, c'est encore la même cérémonie, sans savoir pourquoi la cérémonie est faite comme ça. Comme aujourd'hui, il y a bien des gens qui font des choses, ils se font baptiser, ils vont en communier, ils ne savent pas pourquoi, mais ils s'en vont comme ça. Ils ne savent pas les choses. Il y en a neuf qui se sont en allés, puis ils ont attendu que le grand prêtre y sorte, qu'il fasse la cérémonie, que eux autres, ça ne signifie rien, mais en quelque part, ça veut dire qu'on est guéri. Mais il y en a un qui a dit, « Wow, un instant! » Le vase de terre, la parole, je m'en vais vers le vrai. Je l'ai vivant direct devant moi, là, là. J'ai pas besoin d'un vase, j'ai pas besoin rien que de l'eau. Il est là. Celui qui se promène de lieu en lieu puis répand la parole est là. Fait qu'il est revenu sur ses pas puis il a dit « Gloire à Dieu! C'est fait! Wouhouhou! C'est fait! C'est fait! J'ai plus besoin juste d'un vase de terre puis un peu d'eau avec l'hysope et un petit morceau de bois. Il est là! » Merci Seigneur. Amen. Alors il est revenu sur ses pas. Amen, se voyant guéri. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Puis sans plus, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix autres n'ont-ils pas été guéris? Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? » En voulant dire, c'est dommage qu'ils sondent les Écritures, parce qu'ils espèrent trouver en elles la vie éternelle. Je suis là et ils ne me reconnaissent même pas. Amen. On va juste aller à Matthieu 8. Juste pour vous montrer comment Jésus voulait que le monde reconnaisse que maintenant c'est fait. Toutes les cérémonies de l'Ancien Testament qui parlaient de lui se faisaient. Voyez-vous, dans Matthieu 8, verset 1, ça dit, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, tu peux me guérir. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Voyez-vous, Jésus voulait que le monde voit clair. Il voulait que le monde comprenne. Il dit, « OK, t'es guéri. » Va pas dire ça à tout le monde, là, mais fais exactement qu'est-ce que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il fasse. Va te présenter au sacrificateur, amène l'offrande, amène le bois, amène l'eau, amène le bois d'hysope, amène le vase de terre, amène tes oiseaux, va te présenter au sacrificateur, amène l'offrande. Et puis, en espérant que ça va lui servir de témoignage. Pouvez-vous imaginer l'autre instance qu'on a lue tantôt? Il y en a neuf qui arrivent devant le sacrificateur. Il sort, l'examine. Ben oui, t'es guéri. Ben oui, t'es guéri. Ben oui, t'es guéri. Neuf fois. Fait que neuf vases de terre, neuf eaux qui coulent, un paquet d'oiseaux qui sont égorgés pour... Jésus espérait. Peut-être qu'ils vont comprendre. Peut-être qu'ils vont comprendre. Peut-être qu'ils vont comprendre. Peut-être qu'ils vont comprendre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jésus arrive, puis il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Il répand la parole. Il lui parle du royaume de Dieu. Il lui dit de s'approcher de Dieu. Il va partout, puis les miracles l'accompagnent. Alors, il dit, va te présenter au sacrificateur, puis il amène l'offrande. Afin que cela leur serve de témoignage ou peut-être qu'ils vont comprendre. « Wow, on n'a plus besoin de faire ça, il est là! » Amen. Mais voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il faisait ça, puis la guérison était là. Dans le Nouveau Testament, la guérison est encore là. Parce que dans Hébreux 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit, oh, gloire à Dieu, Hébreux 13, verset 8, ça dit, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Il ne change pas. Quand même que les gens arriveraient et diraient, « Oui, mais aujourd'hui, là, il y a tellement de maladies bizarres. Hey, la lèpre, là, je peux vous dire, pas jolie, là. » C'est une maladie, c'est aussi pire que n'importe quoi, là. On a très bien lu que aussi, quand on a vu qu'on a été racheté de la malédiction, que c'est toutes les maladies connues et inconnues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde dans les Écritures, puis qu'on pense trouver en elle la vie éternelle, nous autres, on l'a trouvé. Mais dans la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, la guérison est incluse. Amen. Alléluia. Alors, il faut vraiment être comme les lépreux. Il le dit, c'est écrit, je marche vers ma guérison. Je fais ce qu'il dit. Amen. Il dit de prendre la parole de Dieu, qu'elle va agir comme un médicament. Je vais prendre la parole de Dieu, qu'elle va agir comme un médicament. Il dit de s'approcher avec assurance du trône de grâce, d'être secouru dans mes besoins. Je vais m'approcher du trône de grâce, puis je vais être secouru dans mes besoins. Amen. Alléluia. Comme ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Gloire à Dieu. Il y a de la guérison dans la rédemption. Amen. Merci Seigneur pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est le vase de taille, il est l'eau, il est l'hysope, il est toutes ces choses-là. Il est le sang appliqué, il est l'agneau rôti au feu. Amen. La semaine prochaine, on va regarder deux autres exemples de l'Ancien Testament qui nous démontrent encore que la guérison faisait partie de la rédemption. Amen. Alléluia. On va se lever debout. J'ai des requêtes de prière précises que les gens veulent vraiment qu'on rentre en accord, puis on va le faire. Puis j'ai des requêtes de prière en général qu'on va prier aussi. Dieu va faire toutes les choses, amen. Dieu y est fidèle, il n'oublie rien en nulle part. Dieu voit tout, sait tout, connaît tout. Il peut compter tous les cheveux de notre tête. Fait que des fois, les gens se demandent, je ne sais pas si, vu que j'ai juste écrit la requête ici, on va vous dire quelque chose. Il sait combien de cheveux on a perdu en se brossant les cheveux ce matin. Ça dit qu'il ne tombe pas un cheveu de notre tête qu'il ne sait pas. Amen. Alors, il sait très bien ce qui est écrit ici. Mais si vous voulez, on va rentrer en accord avant. Il y a une madame qui s'aperçoit qu'un enfant après l'autre, ils ont toutes la même maladie. Ils appellent ça la maladie du Tourelle ou Tourette, en tout cas. Et puis, après l'autre, là, le quatrième enfant, il vient d'être diagnostiqué. Alors, elle est vraiment déçue de, tu sais, affaisée de cela. Alors, nous, on veut prier pour que, en quelque part, elle ait de l'aide sur son chemin avec des vrais bons médecins, là, qui vont l'assister, qui vont corriger le problème et que Dieu va faire tout ce qui doit être fait par-dessus ça. Amen. Parce que c'est sûr qu'elle va aller voir les médecins, tout ça. Mais on va demander que dans son cheminement, qu'elle ait toujours le meilleur. Amen. C'est comme quelqu'un m'appelait hier, puis a dit, en tout cas, on vous remercie de vos prières, parce que c'est au-delà. C'est toujours au-delà. Même si son mari devait être hospitalisé, il y a une meilleure chambre, il n'a pas eu besoin d'attendre longtemps, il y a le médecin, ça donnait que c'était son médecin qui était de garde. Voyez-vous des addons puis des addons. C'est pas juste des addons. C'est Dieu qui prépare les choses quand elles sont priées d'avance. Merci Seigneur. Alors, Père éternel, on prend autorité premièrement sur qu'est-ce qui vient contre ces enfants-là, Seigneur. Oh, Père éternel, Jésus est venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et Jésus a tout procuré à la croix. Et nous, on appelle ce secours. On appelle cette provision. On appelle cette guérison. On appelle cette paix dans cette maison, Seigneur. Alors, prépare les bonnes personnes sur leur chemin, Seigneur. Prépare les choses et étends ta main puissante, Seigneur, sur le médecin, sur tous ceux qui vont l'entourer, Seigneur, pour que tous les problèmes soient pris soin, Seigneur. Au-delà, Seigneur, on croit à la liberté totale, Seigneur, et amène la bénédiction dans cette maison-là, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Et une autre personne aussi qu'on va prier que Dieu va prolonger ses jours, c'est ce qu'ils ont demandé. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, on croit, Père éternel, que cette personne, Seigneur, ses jours sont prolongés sur la terre, Seigneur, et ne meurt pas prématurément dans le nom de Jésus. Et le traitement qu'il va recevoir, Seigneur, va être facile à son corps pour assimiler, parce que ta force toute puissante va l'aider à passer au travers. Aucun virus, aucun germe, rien ne va s'installer ou venir près de lui. Ta protection divine va va être autour de cet homme-là. Et on te remercie, Seigneur, qu'un jour, il va élever des mains vers toi pour te glorifier de tout ce que tu as fait pour lui. Dans le nom de Jésus, amen. Il y a une autre madame ici qu'elle avait vraiment besoin de force et d'aide. Alors, on va prier pour elle. Père éternel, dans le nom de Jésus, on élève cette femme devant ton trône de grâce, Seigneur. Quoi que ce soit qu'elle a besoin, Seigneur, tu es toujours venu et on croit que tu vas toujours venir à secourir toutes ses faiblesses, Seigneur. Merci de la fortifier, de l'aider, de prendre soin, de préparer pour elle, Seigneur, et de l'amener de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Et maintenant, Mme Baron, elle a parlé avec quelqu'un ce matin qui va être opéré pour un cancer. Et puis, elle lui a dit, je m'en vais justement à l'église. C'est-tu bon, hein? Je m'en vais justement à l'église. Wow! C'est ce que le monde a besoin. Vous savez, c'est dommage qu'ils sont tous après défaire les églises ici. 28 églises qui ont fermé. Le monde ne va plus à l'église. Mais quelle merveilleuse chose on peut dire aux gens, je m'en allais justement à l'église ce matin. On rit, hein? On a envie de prendre ça à la légère. Mais c'est ce que le monde a besoin d'entendre. C'est ce que le monde a besoin d'entendre. Vous savez, quand l'Église a commencé dans les actes, lisez, ça dit à tous les jours, on installait un impotent à la porte du temple parce que les apôtres montaient à l'Église pour aller prier. Tous les jours! Pouvez-vous imaginer quand on dit aux gens, je m'en vais justement à l'Église ce matin. Wow! L'Église, c'est le corps de Christ. Jésus lui-même est la tête de l'Église. C'est merveilleux. On pourrait rester là-dessus, là, penser à ça jusqu'à midi. Amen. Je m'en vais justement à l'Église ce matin. Wow! On va prier pour cette madame-là.